Bonjour et bienvenue à cette table ronde, enfin cette discussion très intime. Nous sommes en petit nombre, je vois, autour donc du sujet machine et spiritualité. Alors, avant de présenter le sujet général sur lequel nous allons nous entretenir, sujet qui évidemment va évoluer et s'adapter au fur et à mesure de nos réflexions, eh bien, je vous présente nos intervenants. Pierre Bordage, que selon la tradition on ne présente plus mais qu'on présente quand même, voilà, qui donc est un écrivain français dont les nombreux cycles romanesques rencontrent depuis des années un grand succès public et critique, à commencer et sans finir bien sûr par Les Guerriers du Silence, Absalon, Les Griots de Céleste, La Fraternité du Pancard. Bon, je ne peux pas évidemment tous les citer. Parmi ces thèmes de prédilection, l'inscription au cœur de l'anticipation d'une forme de spiritualité, la question de la conscience humaine, du rapport entre l'esprit et la conscience humaine, face à une technologie qui est souvent pernicieuse, mais pas seulement, qui peut être porteuse de merveilleux espoirs et à la source, souvent, d'une rupture d'équilibre. La question de l'équilibre entre être humain et environnement, c'est peut-être quelque chose que nous aborderons. On aperçoit assez nettement la hantise de la perte de la spiritualité de l'humanité au profit de ces machines dans une grande partie de son œuvre, Les Guerriers du Silence, Les Derniers Hommes ou Chroniques des Ombres, mais là encore ce n'est pas exhaustif. Pierre Bordage est également une figure extrêmement marquante pour le festival Les Utopiales, comme vous le savez tous. Denis Vidal est anthropologue, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, dans le cadre de l'unité de recherche Migration et Société de Paris Diderot, ainsi qu'enseignant associé au musée du Quai Branly et à l'école des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur la culture visuelle et sur l'anthropologie de l'art, en particulier en lien avec les représentations de créatures artificielles. Il nous expliquera ça mieux que je ne peux le dire actuellement. Et il participe actuellement, c'est une des choses sur lesquelles nous aurons sans doute l'occasion de discuter, à la conception du robot Berenson, qu'il développe avec l'équipe du roboticien Philippe Gossier, et dont l'objectif est de mettre au point une forme de sens esthétique artificiel. Bon, je parle évidemment sous son contrôle. Et son dernier ouvrage, Aux frontières de l'humain, est notamment l'occasion de réfléchir au rapport établi entre les êtres humains et les artefacts. Alors, machine et spiritualité. L'idée générale qui était à la base de cette table ronde, de cette discussion, ça vient de la formule Deus ex machina, le rapport entre le divin et la machine. Le terme de spiritualité, nous aurons l'occasion de le définir plus nettement au fur et à mesure quand nous le verrons. Alors, il me semble, pour lancer un petit peu la réflexion, qu'il y a une ambivalence fondamentale entre face à la machine. La machine qui est un espace de projection, de réflexion, et qu'on a tendance à anthropomorphiser, même lorsqu'elle a très peu de caractéristiques pour cela, hein, lorsqu'on s'emporte contre son grille-pain, contre son téléphone, il n'y a pas forcément dans ces objets inanimés une âme, mais nous nous comportons comme s'ils pouvaient être conscients. Donc il y a déjà cette projection, cette faculté de l'esprit humain à projeter quelque chose. Et la question, c'est ce que nous pouvons imaginer qu'ils nous répondent en quelque sorte. La manière dont ils peuvent nous revenir vers nous. Et de ce point de vue-là, les représentations culturelles, notamment la littérature et notamment la science-fiction, et là on a tous les supports possibles et imaginables de la culture, se sont emparés de cela dans une perspective qui souvent est liée à des créatures anthropomorphes, le golem par exemple, qui est déjà une créature dotée d'une âme, ou du moins dotée d'un souffle divin, va se devenir incontrôlable. Ce syndrome du golem incontrôlable, on le retrouve bien sûr dans la figure de Frankenstein et du monstre de Frankenstein. Le syndrome de Frankenstein se développant dans des myriades d'histoires de robots destructeurs et d'ordinateurs désirant asservir l'humanité. Cette logique-là, on la trouve de manière très fréquente, très, très facile à utiliser et à la limite du stéréotype dans cette idée d'un remplacement en quelque sorte de l'humanité, c'est-à-dire que nos créations au sens général, notamment nos créations machines qui paraissent avoir une forme d'autonomie, peuvent être potentiellement nos héritiers, nos remplaçants et profiter en quelque sorte, devenir la nouvelle étape, le nouveau stade pour nous. Donc la question qui se pose en un sens, c'est peut-on envisager une forme d'esprit, d'âme pour la machine, et qu'est-ce que cela signifie ? Sachant que cela nous invite aussi dans la littérature à réfléchir à ce que signifie esprit humain, ce que signifie conscience, et ce que signifie donc prendre conscience de son environnement, ce que signifie développer une affectivité ou une conscience par rapport à cet environnement, et par de ce fait également à réfléchir à ce que nous pouvons faire pour que les robots, les machines, les ordinateurs, les intelligences artificielles faibles que nous avons pour l'instant et que d'aucuns souhaiteraient rendre plus fortes, comment les programmer, comment les disposer de manière à ce qu'ils développent une forme de conscience, une forme d'esprit, quelque chose qui, là encore, pourrait nous répondre. Un des points d'horizon possibles, et je m'arrêterai là avant de passer la parole à nos intervenants, c'est évidemment la question que cela pose en retour sur notre propre conscience, ce que signifie notre propre esprit, à quoi pensons-nous lorsque nous parlons esprit ? S'agit-il uniquement de quelque chose qui est produit par une disposition du cerveau, ou y a-t-il quelque chose dans le mouvement, dans la dynamique, quelque chose qui serait par exemple de l'ordre de l'information, à ce moment-là, ne pourrait ou non être isolé, pourrait ou non être transmis, par exemple, si on envisage de dupliquer notre conscience sur support numérique. Toutes ces questions très vastes ne seront sans doute pas rencontrées toutes ici, mais nous allons en tout cas commencer à discuter et réfléchir avec nos invités. Alors, je précise que le cadre convivial aidant, j'ouvrirai la parole au public assez tôt dans la discussion, mais que de même je l'interromprai pour reprendre le fil spécifiquement avec les intervenants. Bien. Donc, je commencerai par cette problématique simple, donc la machine, obstacle, vecteur pour la spiritualité humaine. Et peut-être d'abord pourrions-nous nous interroger sur ce qui est projeté de l'esprit humain dans la machine, au sens que vous voudrez bien donner à ce mot de machine, comme d'esprit humain d'ailleurs. Alors, à votre gré.
Ouh là là. Bon, à vous.
On peut continuer on peut commencer par réduire la question.
Il me semble que la machine, c'est une projection de l'esprit créateur tel qu'il était conçu dans les religions, pour moi, mais là je lance une petite pierre provocante à mon voisin peut-être, la science n'est que la continuité des religions matérialistes, parce que il faut faire on fera certainement la distinction entre la spiritualité et le matérialisme religieux. Le matérialisme religieux consiste à voir un dieu extérieur, créateur, et donc j'ai une sorte de complexe de créateur que l'être humain essaie de reproduire en créant des machines. Donc alors la spiritualité, c'est exactement l'inverse. La machine, c'est quelque chose de fini, c'est quelque chose de mécanique, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui est contrôlable, c'est quelque chose qui était matériel. Et la spiritualité, c'est exactement l'inverse pour moi. Évidemment, je parle que sur mon... parce que pour moi, la véritable spiritualité, c'est le principe d'incertitude. Et donc, ça veut dire sortir de tout système de pensée, alors que la machine est le fruit d'un système de pensée. Donc c'est un peu antinomique, je pense, spiritualité et machine. Et je ne pense pas, jamais, que les machines auront une conscience. Disons, j'espère pas, plutôt. parce que je pense que la dimension humaine, elle est liée à la conscience et à la mortalité, après. Bon, ça, ouais, et que il y a d'abord, avant de trouver une sorte... Vous avez évoqué le post-humanisme, quasiment, c'est-à-dire ce qu'on sera remplacé par nos propres créations. Avant d'évoquer le post-humanisme, il serait bon d'explorer l'humanité, ce qu'on n'a pas encore fait. Et je pense que c'est un ersatz. La machine est un ersatz de nos insuffisances. Voilà, je ne suis pas très tendre avec la machine. Hein. Mais bon, c'est un peu provocant. Mais j'utilise un smartphone, hein, je vous rassure. Je n'ai pas trouvé encore la même façon de téléphoner sans appareil. Mais je pense que c'est un ersatz qui nous prouve à quel point nous ne sommes pas humains, à mon avis. Voilà. Et je peux passer la parole à mon voisin avec ce pavé.
Non, mais j'ai pas de problème avec ce que vous dites, sauf que je pars d'un point de vue un petit peu différent. Je sais pas, vous m'entendez là, je parle assez. Si vous voulez, bon, très simplement pour dire le contexte dont je pars, c'est d'avoir vécu à différents moments, disons plus d'une dizaine d'années en Inde et plus particulièrement dans l'Himalaya. Donc c'est un peu à partir de là que je réfléchis à ces questions de peut-être de divinité, de divin, plus que c'est ce qu'on avait dit entre nous, plus que de spiritualité. Et aussi à partir de l'anthropologie, puisqu'il se trouve que je suis anthropologue. Donc, si vous voulez, mon point de départ est plutôt le suivant, et il est très différent de, on va voir, de ce que vous venez de dire, de ce point de vue, c'est de dire que, au fond, dans l'histoire de l'humanité, dans la plupart des sociétés, encore aujourd'hui, dans pratiquement toutes les cultures, sauf, et encore de façon probablement très, beaucoup plus limitée qu'on le croit, chez nous depuis le XVIIe siècle, en fait, l'idée que ce qu'on appelle une personne se limite aux êtres humains est quelque chose qui est complètement étranger. C'est-à-dire qu'en gros, dans toutes les cultures et dans celles où j'ai travaillé, il y a des êtres plus ou moins conscients, plus ou moins qui ont un statut de quasi-personne et qui peuvent être, qu'on peut trouver dans les pierres, qu'on peut trouver dans les animaux, qu'on peut trouver éventuellement dans des machines aujourd'hui, on y reviendra. Donc si vous voulez, je n'ai pas du tout cette attitude panique par rapport à la notion qu'on puisse attribuer à quelque chose d'artificiel, à un artefact, des caractéristiques qu'on est plus habitué normalement à trouver chez des humains. En réalité, à mon sens, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les sociétés et que c'était plutôt notre exception, si vous voulez, de réduire au fond au seul humain la notion de conscience, de la restreindre à ça. Et donc, le fait que ça se rouvre un peu, en particulier par la robotique ou par d'autres choses, me semble pas quelque chose d'effrayant en soi, de même que je ne pense pas non plus que la machine est un ersatz de l'humanité. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait qu'on comprend rien à la conscience et à etc. Hein, ça c'est un autre problème, mais on ne sait pas du tout ce qu'est la conscience. Et je suis aussi tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne va pas reproduire, mais ça c'est un autre débat, une conscience au sens où on la possède dans un objet ou un artefact. Mais je ne pense pas que ce soit l'enjeu. Et je ne pense pas non plus que les machines vont se substituer à nous. Voilà. Donc j'essaie d'être aussi, aussi carré que vous l'avez été. De façon
il y avait un essai de Jean-Michel Truon qui s'appelle Totalement inhumaine. Je ne sais pas si quelques-uns l'ont lu. Bon, d'abord, c'était une conférence aux Premières Utopiales qui était à Poitiers, qu'il avait faite, et où il avait glacé tout le monde en disant l'être humain est un support non fiable de la vie, émotionnel, organique, périssable, et que la vie, pour se prolonger, allait plutôt utiliser les intelligences artificielles avec le réseau qu'ils formaient, avec les téléphones portables, les satellites, les ordinateurs, et que donc l'intelligence artificielle était amenée à se substituer, à remplacer plus exactement l'intelligence humaine. Sans quoi ça avait glacé vraiment le monde, parce qu'on disait mais qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, quoi ? Et je pense que la réponse, elle ne peut pas être matérielle. L'humain ne peut pas avoir une réponse matérielle au sujet de sa présence sur Terre, à mon sens. Mais c'est l'objet de ma recherche dans mes livres et puis dans ma vie personnelle. Il n'y a qu'une façon d'appréhender cette présence sur Terre, qui n'est pas religieuse, encore une fois, parce que je pense que la religion est une déclinaison matérielle, dans le sens de la spiritualité, c'est-à-dire retrouver son rapport subjectif à l'univers. En gros, hein, pour moi, dans le couple esprit-matière, qui est la base de tout finalement, est-ce que on parlait tout à l'heure, est-ce que le cerveau ou la conscience est la résultante du cerveau ? Est-ce que c'est une fonction du cerveau ? Pour moi, non. La conscience le cerveau est une interface de la conscience, parce que je pense que l'esprit et la matière, c'est un couple qui ne peut pas être séparé. Et qui, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, mais peut-être que après c'est une pensée que j'explore et qui n'est pas juste, je n'en sais rien, mais la pensée matérialiste ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, si nous sommes issus de la matière, alors effectivement la machine finira par prendre notre place parce qu'elle est plus matérielle que nous finalement. Donc je plutôt fait des recherches, je recherche plutôt dans le domaine de la spiritualité, qui sont aussi les spiritualités indiennes d'ailleurs, comme les Upanishads ou bien le Tao Te Ching, ce genre d'enseignements paradoxaux qui permettent de ne jamais être tranquille et de toujours se situer en subjectivité par rapport au monde, c'est-à-dire en expérimentation du monde et non pas en système de pensée tout préparé que sont les religions par exemple ou que peut être la science par moment.
Alors je ne sais pas si vous voulez réagir. Il y a une nouvelle d'Arthur Clarke dans laquelle je crois que c'est des moines tibétains ont commandé des ordinateurs pour calculer les 9 milliards de noms de Dieu et en partant du principe que c'était la fonction de l'humanité, c'était de calculer ces noms et qu'une fois que ces noms seraient calculés, eh bien la fonction de l'humain serait terminée. Et du coup, c'est la machine qui calcule tous ces noms possibles à leur place, et une fois, effectivement, qu'ils sont calculés, l'univers s'éteint. C'est le paradoxe, le petit jeu auquel se livre Arthur Clarke. Au-delà de l'histoire en tant que telle, dans quelle mesure est-ce qu'il ne peut pas y avoir tout de même un prolongement de ce qu'on peut envisager comme spiritualité, quel que soit le nom ou les fonctions qu'on lui donne, dans la machine, au sein de la machine, c'est-à-dire pas nécessairement voir dans la machine un concurrent de l'humain, mais au contraire quelque chose qui va lui permettre de développer, de développer encore ses capacités spirituelles. Alors, encore une fois, le terme de spiritualité reste un peu flou là, mais je pense à ces vers de Lamartine, « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?» qui se poursuivent par « qui s'attachent à notre âme et nous forcent d'aimer ». C'est-à-dire que l'idée de l'âme dans l'objet inanimé, ce n'est pas nécessairement l'âme fantomatique, l'âme de l'ennemi, mais ça peut être le prolongement de notre propre spiritualité et le fait que, d'une certaine manière, l'expression de notre affectivité. Je pense de ce point de vue-là à l'attachement qu'on peut avoir vis-à-vis d'objets du quotidien, pas nécessairement des machines, mais y compris pour des machines. Et la projection anthropomorphique qui fait qu'on va s'attacher à sa voiture ou à son smartphone est aussi quelque chose qui, en un sens, permet de développer l'affectivité humaine. Mais est-ce que c'est, de ce point de vue-là, est-ce un cul-de-sac ? Est-ce une erreur et où est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait, par le biais de la machine, quelle que soit la machine, une manière de développer encore notre rapport à la réalité, en fait, puisque finalement, la spiritualité, le lien esprit-matière, c'est véritablement un lien. Il ne s'agit pas de s'échapper de la matière. C'est au contraire, c'est d'enrichir, enfin, si j'ai bien compris ce que vous disiez. Et est-ce que donc, le rapport à la machine, de l'humain à la machine, peut être un enrichissement spirituel, je veux dire.
Oui, mais enfin, attendez. Peut-être alors, je vais répondre. Moi, ça dépend ce qu'on entend par spiritualité. D'abord, une toute petite, un tout petit aparté par rapport à ce que vous avez dit là de la nouvelle d'Arthur Clarke. Les Tibétains sont des grands fabricants de manière mécanique de prier, comme vous le savez, les moulins à prière, etc. et tout ça. Et en fait, si on considère l'histoire du mysticisme comme ça, il y a toute une série de... Il y a toute une mécanique, de procédés mécaniques ou presque mécaniques qui sont censés aider à la réalisation spirituelle. Donc il n'y a pas de contradiction. Et il y en a d'autant moins, à mon sens, que puisqu'on parlait de l'Inde. En Inde, il n'y a pas du tout de contradiction, je crois, entre une conception mécaniste, un peu de notre environnement, on y viendra peut-être, une conception mécanique presque de ce que sont les dieux et d'autre part des quêtes spirituelles. Donc si vous voulez, pour moi, le fait d'opposer l'un à l'autre se situe vraiment dans un cadre de pensée très particulier, très historiquement daté, qui est le cadre de la pensée occidentale. Par contre, qu'il y ait beaucoup de dangers, alors là, on pourra y venir, c'est une autre discussion, avec les technologies actuelles, que, par exemple, la robotique, par exemple, si on parle de robotique, hein, je pense que le vrai danger de la robotique, c'est par rapport, par exemple, aux emplois. Vous voyez, il y a des enjeux absolument considérables et qui nous obligeront à transformer probablement, pour le bien et pour le mal, le lien entre travail et revenu. Mais ça, c'est un débat qui n'est pas le débat d'aujourd'hui, mais c'est un débat sérieux. Mais par contre, pour moi, surtout si on prend ce qu'on connaît, enfin, il faut connaître les robots. Moi, je ne connaissais pas les robots d'aujourd'hui. Hein. Avant quelques années, je pourrais raconter s'il y a des questions à ce sujet, comment j'ai été associé à la fabrication de robots. Mais les robots d'aujourd'hui, c'est vraiment une supercherie de penser comme le fait le post-humanisme, que les robots puissent avoir une conscience, qu'ils puissent avoir même la moindre autonomie. Il faut voir aujourd'hui le moindre, ces séquences un peu impressionnantes qu'on peut voir sur l'internet où un robot fait quelque chose, sont des choses qui ont été préparées pendant des mois généralement, et aucun robot, là je suis bien placé pour le savoir, n'a la moindre autonomie. Donc déjà il faut quand même, avant d'entrer dans la discussion, relativiser ces enjeux. Par contre, par rapport aux objets mécaniques, par contre, dans le monde, par exemple en Inde, dans les villages où je travaillais, il y avait une présence quotidienne des dieux, de dieux, de divinités locales, des divinités locales qui avaient auxquelles on attribuait une volonté propre, une conscience propre, et qui, elles, intervenaient très sérieusement, avaient tout à fait leur autonomie, dont les gens pensaient qu'elles avaient énormément de pouvoir sur les récoltes, sur la vie des gens, sur des tas d'aspects, vous voyez. Et donc, en fait, on est déjà très, très habitué, en tant qu'humain, à vivre dans des environnements où il y a d'autres entités intelligentes, et peut-être pas le bon terme, mais des entités qui ont des formes de conscience et qui interviennent très directement sur nos existences. Donc en fait, ce que j'essaie de dire, enfin en peu de mots, c'est que la réalité d'un artefact intelligent est, dans l'histoire de l'humanité, une banalité. C'est quelque chose, et ce qui n'est pas banal, c'est l'inverse.
Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en disant que les religions étaient matérielles et donnaient des résultats matériels, puisque effectivement ce fonctionnement-là religieux pour moi est le contraire même de la spiritualité. Un penseur comme Krishnamurti démolit tous ces clichés religieux pour dire: nous n'avons pas trouvé une nouvelle façon de penser, il faut sortir de tous les conditionnements de pensée pour trouver une nouvelle voie de penser, ce que nous ne faisons jamais, nous sommes toujours repris. Il dit que la pensée crée du temps. Et donc, ce n'est que des reproductions. Alors, qu'on utilise des dieux ou des machines, c'est-à-dire qu'on appelle à des entités extérieures pour intervenir dans notre vie, que ce soit par la forme des dieux ou la forme de machines, c'est exactement la même chose, finalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu la mesure de nos insuffisances, c'est qu'on est obligé de passer par des biais extérieurs pour pouvoir avancer dans cette vie, et souvent pour pouvoir conjurer nos peurs, qui sont simplement la peur de la mort, ce genre de choses. Et qui nous font espérer et donc créer des choses qui vont essayer de nous faire reculer ce moment de la mort, etc. Pour moi, c'est la définition même du matérialisme. Et vous parlez de l'Inde, qui est un pays très religieux, mais qui a perdu, à mon avis, l'essence de sa spiritualité. Quand je lis les textes sacrés indiens, par exemple, c'est les Upanishads, où il est dit ce qui n'existait pas hier et n'existera pas demain n'existe pas non plus dans l'intervalle. C'est unifiant de la Maya, ou des gens comme Ramana Maharshi qui disent: le monde est une montagne de camphre, ce n'est pas la réalité, enfin c'est le concept de la Maya hindoue, etc. Nous vivons dans une sorte d'illusion matérielle, et nous continuons à prolonger cette illusion matérielle par des inventions qui sont elles-mêmes matérielles. Donc voilà, c'est là. Mais encore une fois, je ne dénigre pas l'outil, je n'ai pas peur de l'outil machine, je n'ai pas peur de mon téléphone portable, mais je n'ai aucun rapport affectif contrairement à Lamartine, avec l'objet, parce que l'objet pour moi reste utilitaire avant tout. Ma voiture, elle est utilitaire, je n'ai pas spécialement d'affect avec la voiture, je suis simplement en colère quand elle ne démarre pas et que je suis pressé, bon voilà, comme tout le monde. Il y a une petite expérience qui est assez fascinante, c'est de voir des gens dans un casino qui jouent à la roulette mécanique, vous savez, une machine qui fait tourner la bille, et qui projettent tout leur affectif sur la machine en disant « la machine est contre moi, la machine est avec moi, j'ai gagné donc la machine est avec moi, elle est favorable, etc. » Et on est exactement dans la même définition que ce que vous parliez sur les dieux l'art, enfin du foyer quasiment, qui dit qu'à un moment il est favorable, Ganesh va être favorable, donc on va le mettre dans un coin de la pièce, etc. Et si c'est pas favorable, donc les dieux sont contre nous. Donc on est un peu dans le même mécanisme, je pense, relation. Matière et spiritualité.
Donc la possibilité d'un rapport mécanique à la spiritualité qui manque la chose. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose qui apparaît très nettement dans vos œuvres quand le sujet intervient. Ce n'est pas non plus le seul sujet que, bien sûr, vous abordez. Mais clairement, il y a à la fois ces machines fascinantes. Vous avez... Vous n'esquivez pas du tout dans la science-fiction la fascination pour les objets anticipés. Et en même temps, il y a très souvent un parcours qui est effectué par les personnages, vos personnages, qui les amène à découvrir qu'il y a eu à un moment une bifurcation, qu'on a perdu le chemin et que trouver le véritable rapport à la réalité, ça n'est pas justement se reposer sur des machines ou sur des techniques, mais sur un rapport vivant aux choses, un rapport, une forme de symbiose spirituelle avec les choses, avec les objets. En tout cas, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans vos œuvres.
J'ai commencé par la fin avec Les Gardiens du Silence, c'est-à-dire que le personnage principal qui s'appelle Tixu travaille pour une agence de voyage, mais de téléportation. On rentre dans la machine, on se retrouve sur une planète lointaine. Des fois, en plusieurs morceaux, parce que la machine a déconné. Bon, mais bon. C'est chose qui arrive. C'est le crash du téléporteur. Et avec une science oubliée qui s'appelle la science indivédique, d'ailleurs c'était un peu tiré de l'Inde, le personnage se rend compte ou apprend à se téléporter tout seul, par la seule force de la pensée, d'une planète à l'autre. Donc c'est ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et d'ailleurs, il y a un Yoga Sutra de Patanjali, je ne sais pas si vous connaissez Patanjali, qui a créé les sutras, qui est un sutra pour se transporter, c'est-à-dire c'est une formule qu'en théorie, si on prononce, ça ne marche pas, j'ai essayé, mais en tout cas, il en a parlé, ou alors je ne sais pas l'utiliser, qui est, donc ça veut dire que déjà dans le temps, il y avait cette idée de se suffire à soi-même pour se transporter d'un endroit à l'autre de l'espace. Et moi, ça m'intéresse plus que de créer des espèces de monstres d'acier qu'on est obligé, par exemple, quand on fait du space opéra, pour aller d'une planète à l'autre avec des années-lumière de distance, on est obligé de créer des trucs invraisemblables qui n'existent pas plus que la téléportation humaine. Hein. De toute façon, déjà au niveau de la relativité.
L'espace n'est pas encore.
Au niveau de la relativité, ce n'est pas possible, selon Einstein. Voilà, on prend le biais de d'engins spatiaux, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est le côté de la voiture. Bon, voilà, la voiture, il faut que j'utilise pour aller d'un point A à un point B. Et le vaisseau, j'utilise pour aller d'une planète A à une planète B. Mais ce qui m'intéresserait plus, c'est de pouvoir le faire par la seule force de l'esprit. Alors, je ne sais pas si c'est possible. C'est un peu chamanique comme truc. Il y a beaucoup de boulot, mais voilà, c'est plutôt ce genre de démarche qui m'intéresse, même si ce n'est pas du tout évident et même si le monde matérialiste autour est plutôt opposé à cette idée même, quoi.
Denis Vidal, vous voulez...
Oui, juste une... On va jouer un rôle renversé, puisque vous avez dit ce qui m'intéresse. Moi, j'ai juste raconté une histoire comme ça pour dire ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'a intéressé. Voilà, c'est dans les villages de l'Himalaya où j'étais, ils sont sur le chemin d'une montagne sacrée où est censé résider Shiva, hein, qui s'appelle comme ça, c'est dans l'Himachal Pradesh, et comme ça. Ouais, voilà, mais alors l'histoire est la suivante. C'est-à-dire, peut-être l'anecdote que je vais raconter, c'est que quand j'étais dans ces villages, il arrivait de façon relativement fréquente qu'il y avait des sadhus, des sages, des sannyasins, qui venaient dans ces villages. Et pourquoi ? Parce qu'à la fin de leur vie, ils montent sur ces montagnes. Dans ces montagnes, ça se passe en hiver, et généralement, l'idée, c'est qu'on ne les revoit plus, et quand on retrouve ce qui arrive parfois à leur reste, ou quand il se passe des choses un peu spéciales après, dans ces régions après, on considère qu'ils sont transformés en divinités mineures. Mais ce n'est pas tout à fait mon point. Le point, c'est que les gens de ces villages, comme souvent dans des villages un peu reculés, en fait, se méfient beaucoup des gens qu'ils ne connaissent pas. Et donc, quand ils voient arriver, c'est arrivé quand j'étais là, un de ces sadhus, un de ces prêtres, en gros, leur réaction est très mitigée parce qu'ils imaginent qu'il y a trois possibilités, en gros. Il y a la première possibilité, c'est que ces gens soient vraiment ce qu'ils sont. C'est la possibilité, ce qu'ils disaient. C'est la possibilité la plus probable et tout le monde en tient compte. Mais il y a deux possibilités qui sont un peu moins probables, mais dont les gens tiennent aussi extrêmement compte parce qu'elles sont graves. C'est la première, c'est que ce soit des escrocs qui se déguisent en sadhus, parce que ça arrive assez fréquemment. Et la troisième possibilité, c'est que ce soit des dieux qui se métamorphosent en sadhus, parce que ça arrive aussi assez fréquemment. Et donc, l'attitude des gens, en tout cas au début, c'est au fond de traiter ces sadhus qui viennent rester quelques jours, demander l'aumône dans les villages, les traiter un peu comme si c'était des dieux, tout en se méfiant énormément, parce qu'en se disant, c'est peut-être de simples escrocs. Mais pour dire ce qui m'intéresse peut-être, en tant que moi, en tant que chercheur, mais aussi en tant qu'individu, je suis plutôt comme ces paysans, c'est-à-dire un monde où il y a à la fois, peut-être, des dieux, en tout cas pour beaucoup de gens, des sadhus, et des escrocs, et des humains, et en fait, on a les trois composantes. Donc, je suis moins fasciné par, personnellement, parce que je suis, d'abord, quand on est chercheur, on est d'abord curieux, je suis peut-être moins fasciné par une quête spirituelle en tant que telle, que par une très grande curiosité du monde où on est, avec ces sadhus, ces escrocs, et les villageois et tout le reste. En fait, et je pense que c'est une conception du monde qui est aussi riche que... voilà.
Je me demande si cette tripartition, ces trois possibilités, ça ne correspond pas aussi bien à ce que, au regard qu'on peut poser sur une machine en se disant, je pense aux intelligences artificielles et aux fantasmes qu'elles peuvent déclencher, soit il s'agit simplement d'un petit programme qui va permettre de jouer en bourse plus facilement, ça c'est les intelligences artificielles qu'on a actuellement par exemple, soit c'est quelque chose, c'est un tour de magie, une prédigitation qui nous fait croire qu'il se passe quelque chose alors que, voilà, si c'est un robot programmé par exemple. Ou alors, et c'est la perspective qui nous retient aujourd'hui, y a-t-il plus derrière cette intelligence artificielle ? Peut-on lui supposer quelque chose qui est en train de grandir ?
Peut-être juste une petite
oui,
réponse.
Et après, je vais passer pour la première fois la parole au public et après on reviendra.
Non, je suis tout simplement pour dire mon accord total avec là, ce que vous venez de dire, avec le point de vue que vous avez sur les machines, en disant que le troisième point de vue, là, comme ça, effectivement, c'est un point de vue alors de ce qu'il pourrait y avoir d'émergent, voilà, dans une machine.
L'idée d'émergence, effectivement. Voilà. Alors, je passe un peu la parole au public si quelqu'un veut poser une question. Sinon, on continue, mais voilà. Y a-t-il, oui, des questions là-bas ?
Un téléporteur pour le micro, mais il n'y a pas.
Ma question, c'était à propos de l'anthropomorphisme des robots. Parce qu'on essaie toujours de faire des robots toujours plus anthropomorphes. Est-ce que ce serait pas pour créer un nouvel homme, pour devenir des dieux nous-mêmes, ou est-ce que ce serait pour créer un homme parfait que l'on pourrait considérer comme un dieu?
Je vais répondre, je ne sais pas si mon voisin sera d'accord, mais je pense que c'est les deux. C'est les deux, c'est une recherche de perfection qui nous conduit dans les abîmes directs, à mon avis. Et c'est aussi le complexe créateur de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de recréer ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que nous sommes une machine super sophistiquée nous-mêmes. Et pour reproduire cette sophistication, il faut vraiment avoir des connaissances incroyables. Et voilà, c'est une sorte de tentative, à mon avis, de s'en approcher. Sous couvert de pratique, hein. Je pense qu'il y a autre chose que la pratique, surtout dans la volonté anthropomorphique du robot. On a travaillé ça dans la science-fiction, les androïdes, etc. Les androïdes qui sont presque humains. Vous avez Blade Runner, par exemple, qui raconte exactement cette histoire avec les réplicants. Voilà, c'est, je dirais, presque le complexe ou le mythe de Prométhée. C'est chercher la lumière, voler le feu aux dieux pour pouvoir le transmettre aux humains. Qui finit en général par des catastrophes. Le golem finit par une catastrophe. Enfin, généralement, toutes ces créatures, Frankenstein finit par une catastrophe. Donc, toutes ces créatures recréées par l'homme, en général, ça finit mal. Parce que j'ai l'impression que la volonté de faire de l'anthropomorphisme dans les robots et autres machines traduit une peur immense. Une peur immense, toujours la peur fondamentale, qui a envie, la peur de la mort. La mort qui fait partie de notre caractéristique, les humains sont mortels, et il y a une sorte de tentative éperdue de trouver l'immortalité via des machines. Le mythe de Gilgamesh, qui est un vieux mythe sumérien, raconte déjà la recherche de l'immortalité par le biais d'une plante que Gilgamesh va chercher au fond de l'eau, etc. Donc c'était déjà une obsession à l'époque, le côté immortel, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette espèce de volonté de trouver l'immortalité, ce qui est, à mon avis, ce qui est tout à fait impossible et qui est contre-productif.
Moi, je répondrais, bon, c'est normal, un peu différemment. Donc, d'une part, en précisant, hein, en étant un peu terre-à-terre, qu'il y a extrêmement peu de robots. En réalité, très peu de roboticiens qui travaillent sur des robots humanoïdes. Hein. La tendance, c'est pas du tout dans ce sens-là.
Les Japonais, quand même.
Quoi ? Un peu, oui, mais il y en a assez peu. Et si on regarde la proportion des robots, on pourra. Mais surtout, aujourd'hui, il y a un consensus réel parmi les roboticiens pour ne pas faire des robots qui ressembleraient trop aux humains. Parce qu'on pense, pour des raisons très, pragmatiques, c'est parce qu'on pense que si un robot s'approche trop, si l'apparence d'un robot s'approche trop de celle d'un humain, ça a un effet, ça crée un malaise chez les gens. Et donc, si vous regardez la plupart des robots qui se font, c'est de manière tout à fait délibérée qu'ils ne ressemblent pas ou qui ressemblent de façon très très schématique à des humains. D'autre part, je pense que, enfin, je reviens un peu à ce que je disais au départ. Je pense qu'il y a une distinction, enfin, à mes yeux, qui est tout à fait fondamentale entre le fait d'être un être humain, ce que nous sommes tous ici, et la notion de personne. C'est-à-dire que ce qu'on constate, enfin ce que j'ai pu constater avec le robot dont je m'occupe, avec lequel j'ai été un de ceux qu'on a conçu.
C'est peut-être l'occasion d'en parler. Hein.
On peut peut-être.
Voilà. Allez-y, parlez de ce robot.
Non, c'est un robot qui s'appelle Berenson, qui, je ne sais pas si vous l'avez vu, et qui a l'air très vieil.
Il a un chapeau melon et, ouais, qui ressemble et des pas yeux, du... voilà.
Qu'on a voulu exprès, qui ne ressemble justement pas du tout à un robot futuriste. Et alors, ça ne vient à personne, le voilà. Et ça vient à personne de le confondre, l'idée de le confondre avec un être humain, et ce n'est pas du tout le projet. Par contre, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce qu'on va le traiter comme une personne ? Traiter quelque chose qui n'est pas humain, je reviens à ça, comme une personne, c'est quelque chose qu'on trouve dans énormément de cultures. et sous différentes formes. C'est le propre de toutes les cultures animistes, c'est le propre de l'hindouisme, etc. Donc, si vous voulez, je crois que je fais une distinction totale entre l'espèce de fantaisie sur lequel il joue, alors à juste titre, parce que c'est de la science-fiction, qui est l'idée de reproduire l'être humain et de s'obséder sur l'être humain, et le fait d'attribuer un statut de personne, que ce soit une machine, une plante ou n'importe quoi.
Alors, avant la question suivante, je dis simplement que pour ceux qui s'intéressent à la question de l'être humain comme machine biologique, puisque ça a été évoqué, eh bien, nous en parlerons lors de la table ronde à 16h sur le gène égoïste. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, monsieur.
Oui, voilà. C'est une question sur l'autonomie des robots. J'ai lu ces jours-ci dans la presse américaine un article sur les programmes de recherche au Pentagone, des milliards et milliards de dollars. Sur l'intelligence artificielle, évidemment avec l'objectif de développer des robots guerriers. Et il semble qu'un souci majeur chez les militaires et aussi chez les scientifiques, c'est quand même de développer des robots qui seraient autonomes et qui pourraient prendre la décision de tuer des hommes sans que ce soit les hommes qui... Donc, quand vous dites l'autonomie du robot, peut-être c'est l'avenir, mais en tout cas, des gens qui... Ce n'est plus de la science-fiction, là. Et derrière la question de la conscience, c'est un peu hasardeux, à mon avis, de dire qu'il n'y aura jamais de conscience, parce qu'on peut imaginer peut-être une diversité de conscience, comme nous, on a une conscience humaine et encore une diversité à l'intérieur de notre espèce. Il y a des espèces animales qui ont d'autres formes de conscience. Pourquoi pas dire que la notion de conscience, il faut la définir, évidemment. Mais dans la définition, ils peuvent avoir des intersections avec notre propre conscience. Voilà.
Merci, Andy.
Oui, moi, juste un... Oh, pardon. Non, juste un petit mot. Je pense que vous aviez deux questions différentes, en fait. Sur la première question, vous avez raison. Enfin, il y a sûrement ce projet de un robot par définition. Ce qu'on appelle un robot, c'est une machine qui est simplement plus autonome que la plupart des machines. Hein, si on simplifie beaucoup les choses. Il faut veiller aux inventions. Enfin, il faut se battre contre les inventions des militaires américains, enfin, ou pas américains d'ailleurs. Donc ça, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on pourra en parler, qu'on a fait un robot, si vous le voyez, qui est la seule qui sert à rien et dont la seule chose qu'il sait faire, on pourra me parler, c'est avoir une sorte de sens de ce qu'on appelle un sens de l'esthétique artificielle. Oui. Mais ça, c'est un autre débat qui est de savoir est-ce qu'on se bat en laissant faire les gens ou en s'en mêlant comme non spécialiste, si vous voulez. C'est un débat de citoyens, ça. Donc ça, mais sur ça, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le sérieux de la question, tout en pensant qu'il est, si vous voulez, que ce qu'on découvre, c'est que les gens survendent pour avoir des financements les capacités des robots. Par exemple, énormément. Par exemple, on montre très souvent en clip un espèce d'animal assez très beau, d'ailleurs façon un peu de Calder, qui est censé aider l'armée américaine, qui est une espèce de chien façon comme ça. Bon, il faut savoir que ça a coûté des fortunes et que l'armée américaine a arrêté le projet parce qu'on a découvert que la seule chose que ça faisait, c'est que ça demandait 7 ou 8 personnes pour s'en occuper, pour porter le poids de ce que porte une seule personne. Donc c'est complètement... Donc là, il y a une espèce de jeu, alors je dirais des ingénieurs, pour obtenir des financements, surtout aux États-Unis. Et puis, alors, par contre, sur le deuxième point que vous posez, alors ça, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un problème tout à fait non résolu et tout à fait fascinant, qui est quelle forme de conscience attribuée, en mettant conscience avec beaucoup de guillemets, peut-on attribuer à différentes sortes d'êtres, d'entités, etc. Ça rentre en jeu, c'est un débat enfin, qui est tout à fait passionnant, qui est pris en charge à la fois par tous les gens qui font de l'éthologie, qui tous les spécialistes de biologie, par tous les spécialistes de, par tous les anthropologues, et il y a vraiment pas de réponse, mais c'est un domaine de recherche fascinant, enfin, et auquel tout le monde réfléchit et essaie de faire des propositions diverses. Donc sur le deuxième point, enfin voilà, si je réponds un peu, mais vous avez des...
Cette question montre à quel point la technologie peut nous amener au pire. Et d'ailleurs, regardez l'atome. L'atome fait de l'électricité, mais l'atome a servi à raser Hiroshima et Nagasaki. Donc il est... ça pose le problème de la... du niveau de conscience de l'humanité par rapport à ses propres inventions, je pense. Et là, il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire que nous n'avons pas développé suffisamment notre propre conscience pour notre propre stade d'évolution. Je pense qu'on est sous-évolué quelque part, les humains. Nous avons tous une vision très subjective de l'univers, ce qui, à mon avis, est la définition de conscience, c'est-à-dire que nous voyons l'univers par nos propres yeux, uniquement par nos propres yeux, et c'est simplement élargir la vision qui est intéressante. Et je pense que tant qu'on n'aura pas élargi la vision, on sera victime des mécanismes de pensée, donc cette pensée qui crée le temps, et qui fera que n'importe quelle invention servira d'arme en premier, puisqu'elle sera le reflet de cette conscience étroite qui fait qu'on va vouloir imposer une volonté sur les autres dans une optique très matérielle, de contrôle, de conquête, etc. Donc il me semble que le problème principal à faire avant de créer des inventions technologiques très sophistiquées, c'est d'élargir sa propre conscience soi-même, c'est-à-dire d'avoir un autre... donc une vision spirituelle entre guillemets, parce que c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces, pour pouvoir élargir cette évolution, pour faire en sorte que les inventions soient vraiment des inventions utiles à l'humain, mais non pas négatives, quoi.
Alors, avant de redonner la parole au public qui a déjà eu plusieurs questions demandées, j'aimerais tout de même poser la question de ce que ça signifie ou signifierait de prévoir une sensibilité artistique chez un robot. Et pour cadrer, il y a évidemment la réponse pratique, enfin du moins concrète, que vous pouvez nous faire dans l'immédiat. Mais ce que je me demande, c'est si, après, dans le champ des représentations, l'idée de la sensibilité artistique, c'est quelque chose qui, dans la littérature, est souvent associé à justement à ce qui va être le propre de l'homme. C'est-à-dire que l'homme va être poète, l'homme va être capable d'apprécier la beauté, là où la machine, elle, ne comprend pas, ne raisonne que de manière purement rationnelle. Et cette représentation-là, c'est toute l'ambiguïté, par exemple, de ce qu'on a dans Blade Runner, avec justement le fait que finalement les réplicants se révèlent être apparemment capables de poésie. Bon, voilà, ce paradoxe-là est exploité depuis un certain temps. Mais donc, concrètement, dans ce travail pour le robot Berenson, qu'est-ce que ça peut impliquer que de programmer une sensibilité artistique, enfin, pour autant, enfin, voilà, que vous puissiez nous en parler. Qu'est-ce qu'il fait exactement, ce robot, au juste?
Pardon, ça dépend, là, on n'a peut-être pas le temps de parler. Soit vous me posez la question au niveau très précis où je pourrais répondre, ou d'une manière plus générale. Je vais essayer de combiner un tout petit peu les deux. Si vous voulez, il faut bien être clair, le robot n'a pas de sensibilité esthétique, il n'a pas de conscience, etc. Et on n'a jamais, nous, quand on discute avec les gens ou qu'on écrit, on prétend jamais qu'il en a. Ce qui est intéressant, c'est justement, c'est qu'il puisse participer à une situation, si vous voulez, où il devient partenaire dans un dialogue, par exemple dans un musée, où les gens s'intéressent à la dimension, disons, esthétique des choses. Et que l'objet, au lieu qu'il y ait cette répartition, et là peut-être je vous rejoins par un autre biais bizarrement, c'est-à-dire que ce que ça peut casser, et ce que ça casse, si vous voulez, dans un musée, c'est une sorte de division extrêmement stricte, où, en gros, d'un côté, il y a les humains qui ont tout, c'est-à-dire la conscience, le sens esthétique, l'intelligence et tout ça, et d'autre part, les objets qui n'ont rien. Bah, quand on est dans un musée comme le musée du Quai Branly, mais génial que c'est pareil au Louvre, hein, en gros jusqu'à l'époque où les objets qu'on voit dans les musées sont faits simplement pour être dans des musées ou pour être beaux, jusqu'à cette époque-là, les objets qu'on trouve dans nos musées n'étaient pas des objets au sens purement justement matériel du terme, au sens que vous dénigrez un peu. C'était des objets qui avaient des puissances variées selon les cultures, selon les situations, avec lesquelles on entrait en interaction. Ben, ce qu'il y a de fascinant avec notre robot au Quai Branly, c'est que quand les gens voient tous les autres objets du Quai Branly, tous les masques, bon, il y en a qui sont très impressionnants, les gens ont des réactions émotives variées, mais en gros, ils continuent à... Ils ne remettent pas en cause cette espèce de d'ontologie, de division qui est nette dans notre culture entre les objets d'un côté, les gens et leur sensibilité, leur conscience de l'autre. Maintenant, quand ils voient arriver notre robot, il faudrait que je montre le film, ils sont troublés. Le robot trouble ces catégories. Donc, quelque part, à mon sens, il donne une conception plus riche du monde qui nous entoure, où tout d'un coup, on voit les choses un peu différemment. C'est déjà pas mal. Voilà, c'est une réponse peut-être trop brève.
Justement, je pense que voir les choses différemment, ça veut dire s'ouvrir au maximum, s'ouvrir l'esprit au maximum. Donc, je pense qu'on voit toujours les choses d'une certaine façon parce que je vais revenir sur ce vieux dada qui est le mécanisme de pensée. Nous sommes dans du prêt-à-penser qui nous demande de penser certaines choses. Et donc, c'est se libérer de ce mécanisme-là qui me paraît important. Et pour avoir des choses, une vision différente justement, et des objets aussi d'ailleurs.
Alors là, je vais répondre juste en 3 secondes, mais excusez-moi, mais moi, pour moi, comme anthropologue, la conception, par exemple, de l'Inde spirituelle, etc., c'est une invention occidentale du 19e siècle, une certaine relecture des Upanishads et tout ça. Et avoir un regard différent, c'est justement, précisément, dans notre culture, ne pas avoir cette distinction rigide, cartésienne, dont on hérite à partir du 17e, entre d'un côté le spirituel, de l'autre le matériel, etc. C'est d'avoir une conception, vous voyez, beaucoup plus ouverte.
Je suis tout sauf cartésien. Tout sauf dogmatique. C'est simplement mon parcours personnel et mon évolution qui me donne à penser certaines choses qui peuvent très bien modifier dès demain ou après-demain ou selon une ouverture précise. Pour l'instant, je pense ça. Demain, je penserai peut-être différemment.
Oui, mais pour moi, le fait de penser ça n'est pas du tout un défaut. Là, vous le prenez mal.
Non,
c'est une façon spécifique de penser. Et quand on est anthropologue, bien justement, ce qu'on essaie de faire, alors c'est un peu notre métier, c'est une déviation professionnelle, c'est qu'on essaie, alors, mais je sais que vous le faites en réalité tout à fait dans vos romans, et sûrement beaucoup mieux qu'un chercheur, mais c'est justement, c'est là ce qui nous rejoint peut-être, c'est que nous, on le fait en s'intéressant à ce que pensent des gens qui ne pensent pas comme nous. Et du coup, ça nous donne un rapport, une façon de penser la relation entre humains, artefacts, Dieu et tout ça, qui justement, quand ça marche, est pas dans ces catégories-là. Mais pour moi, ça ne veut pas du tout dire que ces catégories du spirituel, du matériel sont mauvaises, mais elles sont spécifiques à notre culture. Donc, je pense qu'on en sort très bien aussi. Il y a beaucoup de gens ici qui font de la science-fiction et vous en faites. Et, ouais. Et c'est une façon d'en sortir. Et une autre façon de faire, bah, c'est de découvrir comment les autres cultures pensent les choses ou comment même les savants pensent les choses, qui est souvent beaucoup plus baroque qu'on ne le croit, en fait.
Et ça, pas, je suis d'accord avec
et
vous.
Pas, et pas aussi matérialiste, etc. Donc voilà, donc je me sens un peu... Enfin bon, mais moi je suis... Voilà.
Alors, on a peu de temps, donc.
Mais le romancier, c'est quelqu'un qui est tout sauf dogmatique, puisque de toute façon, il est obligé d'expérimenter à façon d'un chaman, justement, tous les aspects de l'être humain. Toutes ses relations à l'être humain, toutes ses relations à la machine, toutes ses relations, enfin. C'est. Tout sauf. Un romancier dogmatique ne serait pas un romancier, en fait.
Donc, on va essayer de prendre encore deux petites questions. Donc, on fait vite.
Oui. Moi, ma question, c'est plus par rapport à, surtout au début, on parlait de, bah, justement, quand on parle à la machine, c'est-à-dire on parle à sa voiture, on parle. Est-ce que ce serait pas lié tout simplement à ce sentiment de solitude et du coup, on essaye d'avoir quelque chose qui ne parle pas justement, qui donne l'impression qu'on a de l'intérêt et qu'à partir du moment où on aurait, bien sûr, c'est pas possible que ça existe, mais une conscience chez un robot, on aurait un désintérêt quelque part par rapport au fait qu'il soit plus indépendant et pas dépendant de nous. Ça répondrait moins à la recherche d'un intérêt extérieur quand on a une solitude quoi, de l'homme.
Non, je crois que c'est un peu l'inverse. Je crois que la grande limite, par exemple, des gens, alors moi, ça, c'est pas mon problème, mais des industries, excusez-moi, j'ai pris la parole. La grande limite des industriels, par exemple, qui font des robots, c'est que dès que les gens les comprennent un peu trop, ils s'en désintéressent. Si vous voulez, donc je crois que le robot intéresse les gens, effectivement, quand il les surprend. Vous voyez, et quand il les surprend, quand il ne correspond pas aux catégories qu'ils ont, donc quand il fonctionne à l'inverse de quelque chose qui vous enferme comme ça, c'est quand ils ouvrent, quand ils trouvent que ça, c'est bizarre. Et ce qu'il y a d'étonnant, si le robot qu'on fait étonne les gens, c'est pas parce qu'ils le, justement, c'est pas parce qu'ils le confondent avec un être humain, c'est pas parce qu'ils en ont peur comme si c'était un être humain, c'est parce que ça n'est pas un être humain qui les intéresse. Parce que par certains côtés, il fait des choses qui sont habituées à attribuer aux êtres humains, et tout d'un coup, c'est une machine qui le fait. Et c'est ça qui intrigue. Donc en fait, le jeu, c'est de redistribuer des choses qui nous intéressent de façon plus vaste, au lieu de vouloir qu'il y a que nous, qui avons le sens esthétique, qui savons tout, etc. Moi, si j'avais à écrire un roman, ça serait justement en sens inverse. Il ne faut pas s'enfermer sur la spécificité de l'humain. Il faut essayer de penser. Oui. Comment ça peut fonctionner autrement.
Il me semble que dans vos questions, il y a le côté projection sur l'objet. Et ce que vous semblez dire, c'est que quand l'objet n'est plus de la projection, il devient sans intérêt d'un seul coup. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Ce qui n'est pas faux, à mon avis.
Mais je crois que la projection n'est pas l'essentiel de la personnification ni des objets ni des robots. C'est le point de départ. Donc ça existe, mais... Si vous voulez, s'il n'y avait que la projection, alors ça voudrait dire effectivement qu'il n'y a que nous. Donc on retombe que sur nous, nos illusions, etc. Et tout. Ouais. En fait, ce qui se passe quand les robots marchent bien, quand les dieux marchent bien, etc., c'est qu'ils ne font pas de la projection. Les gens ne pensent pas, personne dans l'Himalaya pense qu'ils projettent, ou bien alors... Bon, il faudrait discuter plus longtemps.
Sont dans les dieux.
Comme ça, ils pensent qu'il y a des dieux et donc ils vivent dans un monde où il y a des dieux. Donc c'est différent que de... Vous voyez, c'est très différent que de le penser. Parce que penser en termes de projection, c'est le penser de nouveau uniquement à partir de ce qui se passe dans notre tête. Or, ce qu'on essaie de faire et ce que font beaucoup de gens dans beaucoup de cultures, c'est de penser le monde dans lequel on est. Pas nous comme les seuls, pas nous qui... Voilà.
Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'on a une vision très subjective du monde. Vous me voyez là, assis. Hein, moi, je vous vois assise là-bas. Et nous n'avons pas la même vision du monde. Donc, c'est des questions de légitimité, tout ça. La seule légitimité qu'on ait, c'est sa propre subjectivité. Le reste n'existe pas. Quand vous dormez, le monde n'existe plus. Il existe pour d'autres, mais pas pour vous. Donc je pense que nous sommes des humains qui parlons à des humains de choses humaines. Ce n'est pas forcément vouloir mettre l'humain au-dessus de tout, mais c'est en tant qu'humain, moi je suis préoccupé par l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment l'humain peut évoluer, comment l'humain peut se développer, comment l'humain peut, peut changer sa propre condition. Parce que je suis un humain, quoi. Si je devais écrire un bouquin sur les robots avec 01, 01, 01, 02, ça ne m'intéresserait pas, ça n'intéresserait personne. De la même façon que si je devais écrire une histoire sur les extraterrestres, ça n'intéresserait personne. Si je... la rencontre avec l'extraterrestre intéresse le monde, mais d'écrire une civilisation extraterrestre ne peut pas fonctionner parce que déjà, utiliser notre langue pour ça, c'est une erreur. Donc on serait obligé de faire comme le groupe Magma, de créer une sorte de langue spécifique que personne ne comprendrait. Donc vous voyez, c'est... nous ne sommes que des humains, oui, d'accord, nous sommes des humains, mais nous nous adressons à des humains et nous parlons de choses humaines, principalement, enfin, à mon avis.
Donc les humains parlent aux humains et pas aux machines. En tout cas, je vous remercie de votre participation et je vous remercie de votre écoute.